À Toulouse, les opposants au projet d'autoroute A69 poursuivent leur combat.
Avec donc notamment ce mur symbolique érigé dans cette grande ville du sud-ouest de la France. Ils ne veulent pas.
Radio G. www.radio-g.fr.
Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie, poétesse et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou.
Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent
terrible, j'ai choisi un extrait du chapitre 9, intitulé.
Assise près de l'incubateur. Espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Aujourd'hui, nous avons choisi de vous faire partager une sélection de textes écrits sous forme courte par Thomas Vineau. Est-ce une poésie du réel? Un éloge du quotidien? Thomas Vineau est-il un chasseur d'éphémères? Voici ce qu'écrivait une libraire enthousiaste. C'est comme une boîte de chocolat dans laquelle chacun peut piocher et savourer le monde. Je vous souhaite de succomber comme moi au charme de poèmes contemplatifs, à l'envolée de poèmes lyriques, aux couleurs de poèmes imaginés, à la tendresse de poèmes quotidiennistes. Thomas Vineau, né en 1978, dit que la poésie peut raconter des histoires en s'intéressant aux choses sans importance. J'aime ce qui n'est pas vu, ce qui est négligé, ce qui passe inaperçu. Plus que le clinquant et le vociférant. J'ai l'impression que la poésie se cache dans les détails, tout comme le diable. Écoutez.
Les paysages abîmés. Je ne sais pas pourquoi j'aime les vieilles ruelles des villes et l'ocre de leurs crépis qui s'écroulent. Les murs tapissés d'affiches déchirées, les arbustes esselés, des petits parcs sans gloire. J'aime le soupirail taiseux et la rouille des statues. J'aime tout au bout du bout de la dernière voie de la gare, la peinture effacée sur le banc de métal et les mauvaises herbes qui poussent entre les rails. Tout ce qui est neuf me semble faux. J'aime les westerns un peu salis qui se jouent derrière les tôles oxydées des hangars de campagne, les dessins des vieux clous et de l'eau, les livres aux couvertures cornées et l'ombre du tanin sur les faïences qui ont vu grandir les enfants, et le vert brouillardeux des anciennes cabines, et les ciels en petite forme, et la mousse des gouttières, et les pelures du cuir, et les trous des trottoirs. J'aime les couleurs délavées par trop de pluie et de soleil, les mains qui ont servi, les yeux qui ont pleuré, les bêtes fatiguées. J'aime les paysages abîmés, usés, comme adoucis, qui tiennent sans gloriole leur part du temps passé. L'odeur des choses qui commencent. C'est l'odeur du matin, celle des choses qui commencent. Du froid qui te redresse et te baffe gentiment la trogne. Il fait jour, mais le soleil n'a pas encore réchauffé tout ça. Elle te chope le nez, et puis le bas du dos, et puis la poitrine, et puis sur les chevilles. Petit fouet acide et frais. Elle nous attrape dès qu'on sort, humide et plein de fleurs, froissé de cris d'oiseaux, pressé. C'est l'odeur du blouson et des cheveux mouillés, des clés de voiture, du chauffage et de la radio. C'est l'odeur du bitume et du plastique de l'abribus qui se mêlait si bien avec celle des clopes et du mauvais shit. C'est l'odeur de la rosée dans les fossés, celle des chaussures qu'on frappe pour faire tomber la boue séchée, celle du bleu, du travail durci par la crasse qu'on enfile à nouveau. Ou alors, l'odeur des trottoirs et des ruelles, des boulevards et des boutiques, des recoins puants et des produits nettoyants. Celle des pots d'échappement, des feux rouges, des derniers réverbères allumés, du brouillard dans la plaine, des grandes pattes du pont, des hérons le long de la nationale. C'est l'odeur des habits propres et des regards encore un peu sales, des coups d'eau fraîche et des coups de peigne sur les rêves qui traînent, du café et du beurre, des cachets qui ne passent pas et du lait qui fait mal au ventre, des souvenirs qui s'échappent comme les papillons de nuit égarés. C'est toutes les odeurs qui s'alignent sur la ligne de départ. Et au top, go ! Le bordel peut commencer. Même quand plus rien ne commence, c'est l'odeur où le bordel peut commencer.
Le jardinier. Il avait le plus beau jardin du village. Un potager à 100 mètres de la maison. Clôturé, creusé, bâti, la terre était comme une église qu'il avait taillée de ses mains. Une allée de myrtilles et de groseilles, un mur de framboises sauvages, des chambres pour chaque saison. Le récupérateur d'eau, la cabane à outils, la petite serre en ferraille et en verre. Poireaux, tomates, salades, poivrons, choux, haricots, carottes, blettes et rutabaga. Tout au fond, les arbres fruitiers, le cerisier en forme de monstre. Tous les matins, il s'y rendait, ôtait le crochet du portail, mettait la pompe en marche, les yeux déjà vers la binette. À midi, il ramenait les légumes que sa femme distribuait de l'infirmière à l'épicier. Je me souviens de l'odeur lourde des mûres qui bouillent dans le sucre. Et au fond du chai, tête à l'envers, des pieds de plantes interdites qui séchaient là pour les liqueurs. À partir de 16h, il y retournait jusqu'à l'heure de la dame verte sur le sucre du soir. Pendant les vacances, il nous montrait ce qu'il y avait à faire. En bêchant, il sifflait. Seule la cabane nous était interdite. Il n'en fallait pas plus pour que ça nous obsède. Un jour, je l'ai suivi à l'aube et j'ai regardé par le trou entre les planches. La pièce était une nurserie pleine de semis. Toutes sortes de pousses s'y épanouissaient. Toutes sortes de plantes poussaient là-dedans. Il y avait assez de racines et de germes pour fendre tous les trottoirs de la ville. Une sorte de petite couveuse attira mon attention. Il y revenait tous les quarts d'heure pour y jeter un œil paternel. Lorsqu'il quitta le jardin ce soir-là, c'est moi qui brisai d'une pierre la vitre de son monastère. En m'approchant de la couveuse, je découvris sur l'étiquette le nom de ses pousses chéries était écrit d'une belle écriture à la plume, point de suspension.
Un petit pois, un triangle de lumière chauffe le carrelage sale. Le matin dit « peut-être », petit pas de pyjama, sourire morveux, il titube, il trébuche. Il a un an. Il tend l'index dans la matière jaune de l'air et touche un grain de poussière. Il est un chiot, un dieu, un petit pois. Il tient le monde au bout de son doigt. Les petites poches. J'écris avec le ventre plein, dans des habits propres, pas loin d'un café chaud. Je n'ai pas de leçons à donner. J'écris avec un toit sur la tête, des enfants à côté, une princesse tout près. Je n'ai pas de leçons à donner. J'écris assis devant un feu, devant un arbre, ou une fenêtre, avec le soleil ou la pluie. Je n'ai pas de leçons à donner. Le temps se pose sur mon épaule et les oiseaux sur ma terrasse. J'ai des souvenirs autour du cou et un demain à portée de main. Je n'ai pas de leçons à donner. Je n'écris pas pour donner de leçons, j'écris pour goûter, pour faire goûter. J'écris pour garder, pour regarder. J'écris pour ce matin de janvier dans lequel nous marchons ensemble jusqu'à l'école sous la lune froide comme un réverbère givré. Ce matin, vous avez dansé comme des clowns et des rois devant votre bol. Où je cueille, tel le bouquet de pivoine du jour, les élastiques tortillés de cheveux disséminés dans chaque pièce. Ce matin, où, arrivé devant sa classe, le plus petit s'est affolé en se rendant compte que son pull n'avait pas de poche. Les petites poches dans lesquelles, d'habitude, il enfouit ses petites mains pour passer la barrière des autres enfants qui crient, des parents qui font la queue, de la maîtresse impressionnante, de la séparation. Ces petites poches, au fond desquelles, d'habitude, il trouve sa stature, son allure, son courage. Au fond desquelles, il écrase sa peur en retenant serré la chaleur de ceux qu'il quitte. J'écris pour ces petites poches et pour ce matin, où ne sachant plus quoi faire de ses mains, de ses os, de sa terreur, il devient imperceptiblement plus grand, imperceptiblement plus beau encore, tellement digne d'amour, en affrontant ce qui d'un seul coup lui manque. Vivement, pas demain. Le froid est plein d'or. La mort, pleine de couleurs. Dimanche, je trottine tout nu sur le parquet gris clair. Demain, c'est la rentrée. On pousse les volets, on ouvre les fenêtres et les portes des cages. Un rayon beau comme un sabre de bourreau tranche la robe des dernières roses blanches qui osent tenir tête à septembre. Elles sont aussi belles qu'un fantôme d'enfant. On prépare les jus de pommes, mais ce n'est pas tout à fait suffisant. Dedans le ventre, il y a comme des barreaux forgés de silence. Des yeux perdus dans le vague. Des regards de force qui manquent. Le café, c'est doux et amer à la fois. C'est sûrement pour ça que je l'aime tant. On va se reprendre, bien sûr. Pas à pas, dans les petits pas d'aujourd'hui, avec une chanson de Brel, une joue salie de chocolat, l'odeur d'un cartable neuf ou l'application quasi maniaque des carottes à découper en régulières rondelles. On va laisser le froid un peu entrer en fermant la porte, le chaud sera plus chaud, chaud comme un dimanche de rentrée. La vie, c'est aussi beau que de jouer aux billes avec des crottes de lapin. Vivement pas demain.
Collection. La grande place était vide. Les bulles de sa bière n'étaient plus qu'un lointain souvenir. Depuis 2h30, il raturait l'enveloppe en cherchant une phrase qui serait à la hauteur de la rencontre fortuite qu'il avait eue le matin même avec un jeune couple d'Orvée sous une pierre de son jardin. Mais rien à faire. Que des mots tordus, usés et des phrases bancales. Un type soudain lui tape sur l'épaule. Un petit chauve à lunettes dans un costume taupe. Il se retourne. « Excusez-moi, monsieur, m'offririez-vous cette enveloppe ?»« Mon Dieu, oui, mais pourquoi ?» répond l'autre énervé. « Je vous ai aperçu de loin et n'ai pas pu m'en empêcher. Quel merveilleux spécimen pour ma collection !»« De quoi ? Vous collectionnez les enveloppes ?»« Non, monsieur, les ratures. »
Post-it. Ma douce, pas eu le temps de dire grand-chose ce matin, trop en retard sur nos disparitions. On se voit ce soir, entre deux soupirs si tu rentres plus tôt. J'ai attrapé ce matin, pour toi, une petite bourrasque toute fraîche. Je me suis dit, ça servira pour son cœur, pour ses cheveux. Elle est dans un tupperware bleu, dans le frigo. J'étais là. J'étais là ce matin, dans le lit, encore un confit, toujours confus, à tenter d'attraper le monde par un bout, n'importe lequel, à me frayer un chemin dans mes perceptions, comme un explorateur. fiévreux au fin fond d'une jungle lointaine. J'étais là, un peu groggy, parfaitement myope, méchamment déshydraté, joliment ensuqué, clairement rouillé, tranquillement courbaturé, plaisamment disséminé dans le petit bordel sacré et ordinaire de mes rouages épars, de mes sensations confuses, entre des tronçons de mots, des éclats d'images, des nappes de lumière floues, des vagues de besoins physiologiques, une pression à la vessie, une douleur dans le psoas, la scène d'un rêve qui s'éloigne en flottant, la douceur laineuse de l'aube traversant l'épaisseur sombre du rideau, une question sur ce qu'il y aurait à faire aujourd'hui, une pensée à propos des enfants hier soir, une résolution sur le nombre de verres de vin, un chant d'oiseaux mouillés, une idée à creuser pour le roman, le mugissement d'une machine au loin, une échéance qui approche, un muscle à étirer, mais surtout, surtout, le plus longtemps possible, l'attention minutieuse et concentrée à faire le moins de gestes ou de bruit possible pour ne pas interrompre ton ronflement de caramel écrasé digne d'une bulle de PD de Franquin. J'étais là ce matin. Débarqué dans la conscience de ce qui fait ma vie exactement comme un naufragé sur une plage déserte. Une plage immense et calme où le sable doux accueillerait les vestiges épars de son navire. Une plage inconnue et familière, au-dessus de laquelle de grands oiseaux océaniques striduleraient dans le ciel orange leurs chansons nasales et préhistoriques. Sur un banc. Toute une population vit à l'intérieur de nous. Une ville de choses, d'idées, de sentiments qui se croisent et circulent comme dans un centre commercial. Nous sommes de grands bâtiments usés. Des odeurs et des souvenirs, des principes et des théories se rencontrent le matin dans l'escalier de service. Nous sommes de grands bâtiments trop clos. Nous aimons la tiédeur confortable de nos pièces fermées. Certains s'aménagent de délicieux cercueils molletonnés. D'autres se laissent délabrer. Il y en a qui sifflent en retapant le plancher. Nous pourrions ouvrir un peu les fenêtres, laisser entrer l'air, l'eau de pluie, les pigeons, les éclats de voix du palier voisin. Nous pourrions nous attarder sur le balcon, regarder de l'autre côté de la rue les passants qui marchent comme leurs chiens et les sourires des belles plantes du jardin. Nous serions deux villes qui viendraient s'asseoir sur un banc à l'ombre d'un platane pour palabrer en déboutonnant le premier bouton de chemise. Bien droit entre le plancher et le plafond. Tu pars, tu avances, tu tiens, tu te tiens. Tu traverses, debout, bien droit entre le plancher et le plafond, en entier, au fur et à mesure que se trouve la cadence, la foulée, le souffle. Du monde s'efface autant que ta présence s'affirme. Tu ne sens plus ton corps, les rouages, les tuyaux, les douleurs. Pourtant, tu deviens transparent, poreux. Tu te diffuses et l'espace infuse en toi les odeurs, les couleurs, les formes. Le contact de ta peau et de tes pieds avec la matière, la terre, les herbes, les feuilles, les vents, celui de tes yeux avec la lumière et les nuages, les teintes et les éclats. de tes oreilles avec les cris de bêtes ou les bruits du travail des hommes. La gamme de parfums des vignes, des champs, des pollens, des rues, des routes. Tout est en toi. T'envahis, te rince, te transperce. Tu le gardes dans la bouche, tu le bois, tu le gardes, tu le craches, tu le souffles, tu commences par traverser le paysage, puis c'est le paysage qui te traverse.
La dame au chat. Le soleil fait scintiller les draps de son lit. La poussière qui danse dans la lumière lui laisse une impression de présence. Il se dit que lier des relations affectives avec des grains de poussière n'est pas très bon signe. Ses yeux vont se perdre dehors. Une paire de volets vieillis vient de s'ouvrir. C'est la première fois qu'il remarque cet appartement dans la cour en face du sien. Il aperçoit l'ombre d'une femme sur le mur de la pièce, et puis plus rien. Tout au long de la journée, les volets claquent. Personne ne vient les fermer. Le lendemain, c'est pareil. Deux jours plus tard, une fenêtre s'est brisée avec le vent. Personne à l'horizon. L'appartement a l'air vide. Si ce n'est ce vieux chat de gouttière qui entre et sort par le Vélux entrouvert. Personne à l'horizon. Une certaine curiosité tiède le décide à aller voir de plus près. Il suffit de suivre les chats sur les tuiles chaudes. Il saute d'un immeuble à l'autre en se trouvant particulièrement agile. Lorsqu'il atteint le Vélux, il se glisse subrepticement à l'intérieur et atterrit sur ses pattes. Il se faufile dans la cuisine jusqu'à une gigantesque gamelle pleine de lait et commence à laper naturellement. Dans la pièce sombre d'à côté, une femme s'exclame « Tiens, un petit nouveau !»
Ce goût qui reste à la fin. Je regarde la vie comme un album jauni. Il y a de la chaleur et du sucre, un tapis et des gâteaux. Mes yeux se perdent. Dans les volutes bleutées d'un écran d'ordinateur, souvent je me réveille comme ça, à faire rouler la roulette de la souris à cliquer, pendant que le jour se lève et que le café refroidit. Et puis, voilà, je relève la tête. Je la tourne plutôt. C'est comme de ne plus regarder dans les yeux le serpent du livre de la jungle. Je tourne la tête, me redresse sur ma chaise et regarde autour de moi. Je regarde ma vie. L'automne. Le toboggan trempé, la pluie qui fait briller le gris, et puis cette drôle de mésange avec son bonnet rouge posé au bord du cendrier. Les traces des pas sur le sol, la lampe et les livres, les plantes qui baissent les bras, les éclats sur la peinture abîmée et les flammèches du bois. Je m'attarde sur les photos qui parsèment les murs, je m'attarde sur le petit-déj qui refroidit, sur les jouets et les crottes de lapin qui traînent. Je m'attarde sur le bordel de ma femme, le linge, le sac, les lunettes, les papiers éparpillés sur la table. Il y a sous mes yeux la photo d'un bébé qui venait de naître, il y a 10 ans aujourd'hui. Et puis sur mon bras, le dessin d'un autre petit bonhomme qui a grandi. Je laisse traîner mes yeux sur tout ça. Je m'attarde. Nous sommes le dernier jour d'octobre. Novembre, pour moi, a la couleur des graviers du cimetière où reposait mon père qu'il fallait visiter lorsqu'on était petit. Et puis la saveur des vacances chez les papis et les mamies, c'est très doux et un peu triste aussi. Depuis, je regarde la vie comme un album jauni. Il y a de la chaleur et du sucre, un tapis et des gâteaux. Ce moment, avant d'avaler le bonbon, on suçote la dernière petite boule après l'avoir laissé fondre le plus longtemps possible avec la langue. Ce goût qu'il reste à la fin. Je vis dans ce goût qu'il reste à la fin. Je veux le garder longtemps. J'y habite. J'y écris. Le monde se range très bien tout seul. L'ombre de la maison, sur le sol, trace des traits. D'un côté, la poussière. De l'autre, la poussière. Il faut savoir être ordonné.
Les mains. Le jour commençait à décliner, mais personne ne le savait encore. Dans la rue étroite, les fenêtres du deuxième étage restaient opaques. On ne voyait que ses mains sur le rebord en pierre, et parfois son buste, lorsqu'il s'inclinait un peu pour regarder en bas. On ne voyait que ses mains, immobiles, sur la pierre usée. Des mains blanches et sèches, noueuses. Parfois, l'index caressait la poussière, mais la plupart du temps, rien ne bougeait là-haut. Les gens défilaient dans la rue. Personne ne levait la tête. Personne ne remarquait rien. Tous les jours, il se tenait là, les mains sur la pierre, à observer la vie en bas, le mouvement. Il aurait fallu s'intéresser aux hommes avec application pour remarquer son regard chaud là-haut, à travers la vitre. On aurait même pu remarquer, suivant l'inclinaison du jour, un bout d'épaule, un cou ridé, une casquette. Il aurait fallu prendre ce temps-là, un temps qui se mesure en tendresse, pour constater qu'au fur et à mesure des jours, ses mains se recroquevillaient, son dos se courbait, jusqu'à ce que le front surgisse de l'obscurité, jusqu'à ce que les cheveux touchent la pierre. Si quelqu'un d'en bas avait pris ce temps-là, cette tendresse-là, ce regard-là, il aurait pu alors comprendre que quelqu'un là-haut avait fané.
Nebraska. Le train traverse le paysage. Sa traversée est un paysage. La lumière du soleil déclinant traverse l'horizon, transperce le ciel, les nuages, les plaines, la crasse sur la vitre, nos peaux, nos yeux. Sa traversée est un paysage. Des images de vous visages, traversent mes pensées, ma conscience fatiguée dans cette apathie délicatement mélancolique des longs voyages. Ce sont des images, des moments de vous, de nous, que je perçois comme au travers de la vitre sale de mes souvenirs, accompagnés d'une vieille chanson de Bruce Springsteen. Je traverse le paysage de mes souvenirs, je traverse le souvenir de mes paysages. Sa traversée est un paysage. C'est agréable, comme la certitude confuse que ce qui est passera, mais que ce qui est passé n'est pas perdu. Vous êtes mon paysage. C'est là pour toujours. On pourra le traverser pour toujours, c'est chaud. Je me laisse faire, ballotter par le roulis de mon amour à travers le temps. Je vous traverse, mon paysage.
En rentrant. Nous rentrions tout au bord de la nuit après un apéro qui avait duré trop longtemps. Nous étions heureux d'avoir retrouvé ces gens. Des gens normaux et bons qui avaient vieilli, sans renoncer. La voiture était garée à l'extérieur de la ville. Tu me tenais le bras. Parfois je titubais en rallumant ma clope. Parfois tu riais. Parfois nous n'entendions que nos chaussures sur le pavé. C'était le genre de marche dont on ne souhaite pas voir la fin, suspendue. Quand, d'un pas, côte à côte, nous nous tenons plus droit. Tous les réverbères ne fonctionnaient pas. Ça rendait la lune plus belle. En sortant d'une ruelle sombre, nous tombâmes instantanément sous les néons faiblards d'un bistrot encore ouvert. Le cafetier commençait à ranger les chaises. Un gars vautré devant lui refusait de se lever. Quand nous sommes passés, il a levé la tête et m'a regardé dans les yeux. Je l'ai reconnu illico, malgré les cicatrices et la barbe, malgré les 30 années sans l'avoir vu. Malgré la crasse et la nuit, là, sous mes yeux, l'ami imaginaire de mon enfance en train de siroter sa cirrhose.
Une rencontre. Hier, j'ai rencontré un instant. J'étais assis sur ma vieille chaise à fumer devant le jardin de la nuit et j'ai rencontré un instant. Je n'ai pas bougé. Je l'ai simplement regardé ébrouer ses grands cheveux de vide. Ah, c'était beau, comme de découvrir une machine à écrire au fond d'une rivière.
La plage. Il a marché longtemps sur la plage déserte. Aucun signe dans le sable noir, aucune aide. Un bout de verre poli, le ventre blanc d'un crabe mort, une souche à moitié noircie par le feu, des graviers. Il a marché longtemps. Le vent salé brûlait son visage. Il aurait voulu s'asseoir au fond de l'océan. Il aurait voulu que quelque chose le désaltère vraiment. Coupe sa soif, sa fatigue. Il a trébuché. Il a continué, les pieds en sang. Au bout de la grève, dans le fin fond, il y a un phare. Il y a un plan, sûrement. En tout cas, c'est ce qu'il espère en marchant. Il a encore trébuché. Il a encore continué. Un jour, il s'est rendu compte que quelqu'un marchait avec lui, à côté de lui, à son rythme. Il a regardé. C'était un pingouin. Il a trouvé ça plutôt rassurant. Il a continué.
Le livre est terminé. Le livre est terminé. Et il ne fonctionne pas. Je ne dois plus le toucher, je dois attendre, je dois l'oublier, je dois me faire aider, je dois recommencer, recommencer de recommencer. Lorsque je quitte une histoire, je me sens vide et délabré, comme une maison abandonnée. Ma vie est calme et pleine. Elle a été plus agitée et plus vide, mais dans tous les cas, et bien que je ne sache ni raconter, ni imaginer, je n'ai jamais su faire sans histoire. Je ne sais pas vivre sans histoire. La réalité est trop loin, ou trop près, trop confuse, ou trop claire, trop informe, ou trop inaltérable, elle a trop de goût, ou pas assez. Elle me submerge et me ravaude comme le sel et l'eau sur ces blocos des plages de l'océan. Je l'assume et je m'y confronte. Mais pour l'aimer et la comprendre, j'ai besoin de me raconter des histoires. Il s'agit de traverser la forêt. Elle est luxuriante et pourtant abîmée. Ce n'est pas une forêt de contes de fées. C'est une forêt de bord d'autoroute emplie de lunes roses et de pièges rouillés. De bêtes tordues et de rosées, de ruines, nos déchets s'y inventent des réponses. Elle est drue de ronces et d'inutiles, hostiles, et elle danse, et je m'y empêtre parce que je veux plonger et disparaître, je veux m'oublier, je veux trouver quelque chose, autre chose, hors de moi. Je vais m'y perdre quelques heures par jour pour me salir et vivre avant de retourner là où l'amour et la chaleur sont bien rangés. Là où je suis responsable et grand, et un peu triste. Voilà comment ça se passe. J'enfonce mes doigts dans mes yeux, je déchire ma peau jusqu'à ce que mon cœur s'enfuit tout boiteux et sanguinolent entre les canettes de bière et les orties. Je passe d'une fleur à une merde de chien pour sentir chaque couleur. M'attarde sur le pelage doux et froid d'une bête écrasée, m'enfuis à tire-d'aile, escalade en insecte les montagnes bistres d'une conserve abandonnée. Épaisse, les lianes se balancent sur le plâtre déchiré des murs. Elles pansent les blessures du désastre et sous le lierre tressé, je déchiffre des mots d'amour et de mort tagués dans le salpêtre. Sur un matelas étrange, dessous les tôles froissées, des humains ont fait l'amour et des petits rongeurs effrayés ont pissé. Il reste une bataille de sourires affamés, délabrés en chaque chose. Ici, pendant quelques heures, je fais comme si je vivais. Les pierres noires d'un feu de clochard, l'eau croupie d'un creux de pluie enivré de larves, des langues d'oiseaux au bout de mes doigts sales. Je survis comme un singe dans les ruines de New York, comme le dernier homme qui se caresse en rêvant d'une femme, comme un enfant qui déchiffre les étoiles. Je survis et j'invente quelque chose. Lorsque la nuit arrive, je quitte mon royaume, ma jungle ruine, mon rêve d'encre. Et puis, la nuit couve. Et puis le jour crie, et puis ça recommence. Jamais je ne sais si je retrouverai un passage. Robinson. Je fais des nœuds au fond de mon cœur. J'y cache des mots qui s'évaporent. Parfois jasmin, parfois glaçon, petite cuillère, peau de poisson, campanule, abricot, murmure, akène, bistre, douleur. Ils flottent derrière ma bouche close, forment des rots lorsque j'ai peur. Quand il sera temps, j'en ferai un radeau avec de la ficelle, des étincelles, une couverture et j'en sucerai des petits morceaux.
Les textes que vous avez entendus sont sortis des recueils « Vivement pas dimanche »,« Autre chose »,« Tenir face à l'orage ». Ils ont été lus par Dominique et Marie-Paul. Claude Michel a assuré le montage. Vous pourrez les réécouter sur le site de Radio G, ou emprunter ou acheter les livres de Thomas Vineau. Qui accompagne ces lectures est extraite de l'album « Écoute la neige tombée » composé par le pianiste Rennes. Merci pour votre écoute et à bientôt.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez.